Oui, mais on reviendra sans doute sur cette histoire de classement international, mais puisqu'on était sur le débat là, sur les universités, la gouvernance des universités, moi je voudrais peut-être vous poser une ou deux questions complémentaires. Hein, contrairement à Paul Guibaud, moi je pense que cette réforme va dans le bon sens. Et je pense que la plupart des responsables universitaires aujourd'hui pensent que ça va dans le bon sens parce que c'est sûr que le besoin d'autonomie est exprimé très très largement. Mais est-ce qu'on va aller vraiment au bout de cette affaire-là? Alors, il y a plusieurs aspects, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un, est-ce qu'on va... beaucoup de projets de décentralisation en France, en particulier dans le monde, dans les institutions locales, se sont heurtés au fait qu'on n'a peut-être pas réformé en même temps les administrations centrales. Alors, est-ce qu'on va aussi réformer la façon dont fonctionnent les administrations centrales de l'éducation nationale? Deuxième question, vous avez insisté sur le fait que les présidents d'université ne seraient pas des managers. Bon, aujourd'hui... comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous savez très bien qu'ils sont au four au moulin, ils sont obligés un peu de tout faire, malheureusement, le management des universités aujourd'hui est très sous critique. Hein. On n'a pas les moyens qu'il faut, on n'a pas toujours les compétences qu'il faut. Alors, est-ce que vous allez aller vraiment plus loin, là, en mettant pas seulement des moyens financiers, mais des moyens humains vraiment substantiels
de gestion,
pour que ce soit professionnalisé.
Oui.
Voilà. Et puis, j'ai une troisième question, puisque j'ai la parole, c'est... bon, il y a beaucoup d'autres questions aussi sur l'articulation des cycles et tout ça, des étudiants. Il faudra qu'on parle des étudiants, mais on a beaucoup avancé, notamment pour faire face à cet enjeu de compétition internationale, dans les regroupements, hein, les fameux PRES, hein, pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Moi, je crois que ça va mécaniquement améliorer notre classement à Shanghai. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ce soit autre chose que de la cosmétique et de l'emballage? Parce que il me semble que en France, on est les rois des réseaux. Hein, on a des réseaux dans tous les sens. Tout le monde appartient maintenant à 25 entités différentes. Quand il faut signer un article scientifique, j'ai eu un exemple hier, c'est absolument extravagant, parce qu'il faut une ligne pour énumérer toutes les institutions dont on fait partie. Est-ce que vous pensez pas que... Bien sûr, c'est bien que les gens coopèrent, mais ce n'est pas une façon de contourner quelquefois les vrais problèmes, une façon de faire semblant d'avancer en n'avançant pas vraiment.
Valérie Pécresse.
Donc des réseaux, oui, mais des acteurs aussi. Nous voulons des acteurs.
Alors sur la décentralisation et l'administration centrale, moi je crois que la vraie question là dans les années qui viennent, mais la réforme de l'administration centrale, il faudra la faire. Il faudra la faire en fonction effectivement de la progression de la réforme. Mais la vraie question aujourd'hui, et c'est la deuxième, c'est comment on accompagne les universités pour qu'elles se saisissent de l'autonomie. Parce que l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie, c'est gérer entièrement son budget d'investissement, son budget de fonctionnement, ses salaires, sa politique salariale et ses primes. La modulation du service des enseignants-chercheurs, ça veut dire pouvoir dire à un chercheur qui est très productif, vous cherchez davantage, vous enseignez moins. Pouvoir dire à un enseignant qui veut enseigner, à un enseignant-chercheur qui veut enseigner davantage, vous ne serez pas jugé sur des travaux de recherche que vous ferez à la petite semaine pour avoir votre prime, etc. Vous pouvez enseigner parce que vous êtes un bon enseignant, ou alors à quelqu'un de faire des travaux d'administration, ce qui aujourd'hui n'est pas valorisé du tout dans le cadre universitaire actuel. Donc on va leur donner la possibilité aussi de recruter les contractuels qui le souhaitent, au salaire qu'ils souhaitent, parce que là, l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs talents à l'étranger, de faire revenir les Français qui font leur post-doc à l'étranger, de prendre éventuellement des tuteurs de langue maternelle étrangère pour faire des langues, parce que là aussi, on a un retard fou dans l'enseignement des langues à l'université. Donc, c'est donner toutes sortes de possibilités nouvelles à l'université. Il faut qu'elle puisse s'en saisir. Et là où Pierre Valsa a tout à fait raison, c'est que on a un sous-encadrement de l'université actuellement. Et il va falloir former, il va falloir d'abord faire des audits. Moi, j'enverrai mes inspections dans chaque université pour les aider à construire leur nouvelle configuration. Il leur faut un directeur financier, il leur faut un directeur des ressources humaines, il leur faut un contrôle de gestion, il leur faut peut-être de nouvelles normes comptables beaucoup plus simples, parce qu'aujourd'hui, vous savez, un professeur qui est invité dans une université, il est souvent payé 8 mois après, parce que le temps qu'on fasse sa feuille de paye, etc. Donc on a des tas de dysfonctionnements. Donc le management des hommes va être extrêmement important. Et enfin, alors pour parler des regroupements universitaires, parce que c'est le classement de Shanghai, pose cette question finalement de la taille critique, de la visibilité de nos écoles doctorales, de l'absence de recherche de haut niveau ou la présence insuffisante de recherche de haut niveau dans l'université. Donc je crois que les pôles de recherche d'enseignement supérieur qui ont été créés en 2006 sont un instrument très puissant de regroupement, particulièrement en province. Et on le voit bien dans les logiques de sites. Je veux dire, quand on a un pôle qui s'appelle le pôle de Grenoble, un pôle qui s'appelle le pôle de Bordeaux, on dit en fait Université de Bordeaux, Université de Grenoble.
Et on les situe mieux, bien entendu.
Et on leur fait une signature unique pour les publications internationales. On fait un collège doctoral unique pour toutes les universités et les écoles. Parce que alors on tombe sur la question des grandes écoles. Alors, les grandes écoles n'ont pas de visibilité en matière de recherche et en matière d'école.
Elles
doctorale.
Ont un vrai problème de taille, c'est-à-dire, mais elles ont un ego bien.
Pas de taille,
bien
pas
développé
de taille,
aussi.
Pas
qui
de
leur,
taille, pas de taille nécessairement, mais
de
en
visibilité
cas,
alors.
Non, mais d'articulation avec un système universitaire qui lui développera des doctorats, lui développera des laboratoires de recherche. Et moi, je pense que dans les presses, on peut avoir un système qui ressemble d'ailleurs à des collèges britanniques ou anglo-saxons ou allemands, et où il y a finalement plusieurs types d'écoles et plusieurs types de formations qui sont proposées.
Très vite, Pierre Vels, toujours sur ce point, nous en avons beaucoup d'autres.
Oui, sur les grandes écoles, on pourra en parler longtemps, mais moi je crois qu'il y a un problème de taille. Alors, c'est différent pour les écoles de commerce et pour les écoles d'ingénieurs. Hein. J'ai vu que nos écoles de commerce sont très bien classées, mais une école de commerce, vous connaissez ça très bien, on enseigne du marketing, de la finance, un certain nombre de choses basiques. La technologie, c'est plus compliqué, plus large. Et moi, c'est tout le sens du petit bouquin que j'ai écrit là-dessus. Je pense que vraiment, dans les écoles d'ingénieurs, il y a aussi un problème de taille. Il y a un problème de visibilité, mais il y a aussi un problème de taille. On ne peut pas aujourd'hui positionner nos écoles dans une économie mondiale de l'innovation avec les micro-tailles qu'on a. Si on veut prendre en charge, il y a des tas de sujets nouveaux qui s'ouvrent. L'énergie, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'environnement, les relations de la biologie, l'ingénierie, ouais, des tas de sujets comme ça. Je constate que les grandes universités technologiques mondiales sont capables de se dire de ça. Nos écoles d'ingénieurs en sont totalement incapables parce qu'elles sont trop petites. Donc, oui. Je crois qu'il faut aussi les regrouper.
Mais tout vient quand même de cette dichotomie qui est très spécifique à la France entre ces grandes écoles créées par Napoléon et qui ont fourni finalement les cadres de l'économie française et particulièrement de l'industrie française et de la fonction publique aussi. Et nos universités qui ont gardé une identité, qui se sont assimilés à cette identité académique et publique. C'est-à-dire que l'ambition première de l'université, c'est de former un chercheur ou de former un professeur. Or, aujourd'hui, dans le monde entier, l'université forme les cadres de l'économie aussi et les cadres de la fonction publique. Et là, dans la vision de Pierre Vels, l'école d'ingénieur doit être une grande école scientifique. Or, c'est l'université qui, jusqu'à présent, a été le lieu de la recherche scientifique. Donc, on voit bien qu'il faut associer de manière beaucoup plus étroite les grandes universités scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Et on en a besoin parce qu'on a une crise des vocations scientifiques dans notre pays et qu'on ne forme pas assez d'ingénieurs non plus.
Bien entendu. Alors qu'à l'inverse, nous savons tous qu'aujourd'hui, les pays d'Asie, notamment les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, forment à grande vitesse de très nombreux scientifiques et ingénieurs. Nous sommes donc vraiment en train de perdre du terrain sur ce sujet. On a besoin aussi de spécialistes, d'ailleurs, des questions environnementales. On a fait allusion tout à l'heure à l'énergie, mais l'eau, la santé, les questions de société. Un mot, tiens, sur le Grenelle de l'environnement, sur l'actualité en général, qui touche à l'environnement, parce que je sais que vous souhaitez vous exprimer là-dessus, ça va nous conduire vers la recherche. Les OGM, l'annonce un petit peu confuse là, qui a été faite, y aurait-il moratoire ou pas moratoire? Pour l'instant, on a des...
Écoutez, moi, ma position dans le cadre du Grenelle, position en tant que ministre de la Recherche, elle est claire. Je veux dire... On est sur les OGM dans une situation d'incertitude. C'est une zone grise de la connaissance. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais simplement, moi, ma certitude, j'en ai qu'une, dans cette zone d'incertitude, cette zone grise, c'est que la réponse viendra de la recherche. C'est-à-dire que la démarche scientifique peut nous permettre d'éclairer notre connaissance quand on est dans une zone grise. Et il y a derrière une question d'indépendance nationale. À partir du moment où nous n'avons plus une recherche puissante, suffisamment attractive pour chercher sur des sujets aussi cruciaux pour l'avenir scientifique de la planète que les OGM, à ce moment-là, nous nous mettons en situation d'être dominés par des puissantes multinationales qui un jour importeront, si ce n'est cultiveront, parce que le problème du moratoire, c'est que sur les cultures. Mais on est dans un univers ouvert avec un organisme mondial du commerce, avec une Union européenne où les produits circulent librement. Donc ça veut dire que nous devons garder une capacité de recherche dans les domaines des OGM, d'autant plus que nous ne savons pas, peut-être que demain, dans le domaine du médicament, dans le domaine des biocarburants, dans le domaine de la préservation de l'environnement, un organisme génétiquement modifié sera porteur de progrès. Donc il faut absolument qu'on conserve cette capacité de recherche. Et moi, je suis un peu inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on avait plus de 20 projets de recherche sur des plantes génétiquement modifiées il y a 3 ans, on n'en a plus que 6 aujourd'hui, et nos chercheurs s'en vont. Alors, bien sûr. Je crois que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions prises par le Grenelle de l'environnement sur la question du maïs transgénique Monsanto, qui est une plante spécifique, pesticide, dont les risques doivent être évalués. Mais au-delà de cette question très spécifique, je crois que notre capacité de recherche doit être totalement préservée.
Alors, la recherche, effectivement, gros sujet. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite relever les questions. Juste un petit mot pour revenir sur les mesures. Vous venez de parler des chercheurs et notamment des jeunes chercheurs auxquels vous souhaitez accorder une revalorisation de leur allocation de recherche. Vous avez dit que beaucoup d'entre eux, évidemment les meilleurs, sont tentés de partir à l'étranger ou en tout cas sont très clairement chassés et attirés à l'étranger. Revalorisation donc de cette allocation de recherche de plus de 8% au 1er octobre. Également souhait d'attirer davantage les étudiants, enfin c'est ce qui est derrière, vers justement le doctorat, vers une recherche réelle, ne pas les décourager. Ça fait quand même assez peu d'étudiants concernés, évidemment, si l'on compte l'ensemble de tous ceux qui entament une thèse chaque année et qui doivent plus ou moins se débrouiller pour subsister. Alors vous me direz, bien sûr, on ne peut pas tous attribuer des bourses à tous, des allocations à tous, mais vous êtes conscient quand même des difficultés des chercheurs, de la rémunération très, très faible qu'ils continuent de percevoir.
La question, en réalité, c'est celle de la place qu'on fait au doctorat dans notre vision d'un cursus de formation. Et c'est ça, la question. La question, c'est pourquoi, aujourd'hui, dans la France, alors on retombe sur la question des grandes écoles, mais pourquoi dans la France d'aujourd'hui, quand on est ingénieur, on est mieux rémunéré que quand on est docteur ? Parce que 3 ans plus tard, on considère qu'on s'est un peu attardé en chemin, qu'on n'a pas passé 3 ans à mettre du jus de crâne dans une thèse très très longue, très très pointue, mais qu'on n'est donc pas professionnel, qu'on n'est pas... Bon, c'est évidemment le contraire. Je veux dire, la thèse est d'abord, c'est une œuvre de volonté extraordinaire. En plus, ça montre une autonomie de pensée. Ça nous met à la pointe de la connaissance. Donc, je veux dire, il faut absolument valoriser le doctorat. Alors, moi... Dès le début, nous avons ouvert un grand chantier sur les jeunes chercheurs avec cette volonté de valoriser le doctorat. On a pris déjà toute une série de mesures, mais on ne va pas s'arrêter en chemin. La revalorisation de l'allocation de recherche de 8%, ça veut dire qu'aujourd'hui, un allocataire moniteur est à 2000 euros par mois, ce qui le rapproche vraiment d'un maître de conférence premier échelon. Ça veut dire que pendant 3 ans, à 2000 euros, il est quand même dans des conditions matérielles à peu près correctes pour faire sa thèse. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'il faut que tous les allocataires de recherche est un monitorant, en tout cas tout ce qu'il souhaite. Donc, je vais créer des postes de moniteurs, j'en ai créé 500 au 1er octobre, je vais en recréer dans le budget 2008, de façon à ce que tous les allocataires qui veulent être moniteurs puissent l'être. Donc, ils puissent tous être à 2000 euros par mois et qu'ils puissent tous avoir une expérience professionnelle dans le cadre de leur doctorat, parce qu'enseigner, c'est une expérience professionnelle.
Encouragez d'ailleurs, oui, effectivement, le rapprochement avec l'entreprise à ce sujet.
Alors, de la même façon, on a la question du doctorant vu par l'entreprise. Et là, on a deux cas de figure. Soit les entreprises ont l'habitude de faire faire des thèses chez eux à des doctorants. C'est les bourses CIFRE. Et on les a augmentées de 16% cette année pour justement qu'elles soient plus valorisées. Bon, le doctorant va aller faire sa thèse en entreprise. Il y en a 1600 qui font ça. On va augmenter le nombre. Mais ça reste très pointu. C'est pour les entreprises qui font des gros investissements de recherche. Notre problème aujourd'hui, c'est l'investissement de recherche des PME françaises. On a un déficit du commerce extérieur. L'Allemagne a un excédent du commerce extérieur. Si on regarde les structures, on a deux problèmes, la taille de nos PME et leur capacité d'innovation. Et quand on n'innove pas, ben on exporte moins. Bon, ça c'est clair. Donc il faut mettre de l'innovation et de la recherche dans les PME. Alors, on va réformer le crédit impôt recherche. Mais là encore, la question c'est comment faire accéder les doctorants aux PME. Et il y avait une expérience extrêmement intéressante à Bordeaux de doctorants en entreprise. Et j'ai voulu la généraliser au plan national. Donc je viens de créer lundi dernier, je viens d'annoncer la création de 500 postes de doctorants conseils. Et c'est les doctorants qui feront leur thèse dans leur laboratoire, dans leur université, et que les entreprises pourront faire venir chez elles pour une journée par semaine, par exemple, sur une base de 30 jours par an. Et ils les rémunéreront au prix d'un consultant junior. Et les doctorants font la veille scientifique, la veille technologique. Parce que moi, j'ai été très frappée de voir que, par exemple, sur le réchauffement climatique, il y a des assureurs, pour qui c'est quand même un événement scientifique majeur, qui ne font pas appel aux compétences des laboratoires de recherche qui cherchent recherche sur le réchauffement climatique, pour donner un exemple.
On pourra en donner d'autres, effectivement, dans la santé, dans les nanotechnologies, dans la
technologie de l'information. Les doctorants sont à la pointe, évidemment. Ils font un sujet de thèse à la pointe de la recherche.
Oui, mais le lien n'est pas assez fait. Pierre Vels et Paul Thibault, je crois, sur ces questions.
Allons-y. Oui, sur les doctorats, comme vous l'avez dit, le problème, c'est un des problèmes, c'est la position relative du diplôme de docteur, diplôme d'ingénieur en France. C'est le seul pays du monde où il faut mieux sortir d'une grande école que d'être docteur.
Oui.
Et comme les dirigeants des entreprises sont eux-mêmes des anciens des écoles, évidemment, le cycle se perpétue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un ingénieur qui sort d'une grande école, s'il choisit de faire une thèse, même avec vos allocations revalorisées, c'est très bien, il a un salaire qui est la moitié de salaire de premier poste normal dans une entreprise, le tiers de ce qu'il a quand il va dans la finance ou dans le conseil. Donc on est encore en dessous de la barre. Et je crois que c'est un vrai problème, c'est un très gros problème, parce que très peu de nos jeunes ingénieurs font de la recherche. Alors j'ai une autre question, vous l'avez évoqué aussi, c'est est-ce que tout ça ne remonte pas beaucoup plus en amont? Personnellement, je trouve qu'on a fait une erreur absolument stratégique le jour où on a décidé de séparer les voies littéraires et les voies scientifiques très tôt, hein, dès le lycée, voire avant. Enfin, c'est vraiment, il faut que les gens choisissent, sont sommés de choisir. Alors que quand vous allez dans un bon collège américain, c'est-à-dire l'équivalent de notre cycle licence, vous faites un peu de tout, vous avez une formation pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, on a des gens, dès le niveau du bac, qui sont soit des littéraires, entre guillemets, totalement incultes en sciences, et c'est grave, parce qu'une bonne partie de nos dirigeants viennent de ces milieux-là, soit l'inverse, c'est-à-dire des scientifiques qui sont totalement incultes en dehors du champ scientifique. Moi, je trouve ça, c'est catastrophique. Et là, on pourrait imaginer, puisque notre président et notre gouvernement semblent vouloir faire des choses très audacieuses, moi, je proposerais, par exemple, qu'on revienne sur cette bifurcation extrêmement précoce entre les sciences et les lettres. Dès le niveau du lycée, on pourrait imaginer qu'on ait des formules aujourd'hui beaucoup plus ouvertes et qui aillent dans le sens d'une société moins clivée entre ceux qui comprennent plus rien du tout à la science et ceux qui sont enfermés dans leur science.
Sans parler des difficultés d'insertion et de choix, car je crois que c'est vous-même qui le relevez, bien souvent ces étudiants dont vous parlez, au sortir de leurs études secondaires, ne savent absolument pas vers quoi se diriger. Donc peut-être qu'un socle plus général, effectivement,
oui, parce que je crois qu'il faut, dans le bon sens. On peut même faire un constat plus noir, c'est qu'en réalité, on a maintenant aussi une classification en termes de niveau des bacs. C'est-à-dire que les bacs S se voient ouvrir toutes les portes, les bacs ES se voient ouvrir un peu moins de portes et les bacs littéraires se voient ouvrir encore moins de portes. Donc à partir de ce moment-là, il y a évidemment un phénomène d'éviction et les gens vont faire des sciences alors même qu'ils sont littéraires. Il faut voir que dans des hippocagnes, dans les filières d'excellence littéraire, on trouve beaucoup de bacs S parce que les très bons s'obligent à faire des sciences par un processus de sélection. Oui, mais pour simplement s'ouvrir un spectre plus large. Donc on est vraiment dans cette dynamique. C'est pas moi qui suis responsable de la réforme des lycées, mais ça rejaillit sur moi, parce que j'ai des bacheliers. Des bacheliers qui vont arriver à l'université. Et la question qui m'est posée, et c'est celle que pose Pierre Vels en filigrane, c'est quand un bac littéraire arrive et qu'il n'a pas les fondamentaux en mathématiques, est-ce qu'il peut vraiment intégrer un milieu professionnel? Quand un bac S arrive et qu'il n'a pas, ou un bac technologique arrive et qu'il n'a pas les fondamentaux littéraires nécessaires? Donc moi, je crois qu'il faut qu'on travaille sur la première année à l'université. C'est notre chantier réussi en licence. Cette première année, ça doit être une année fondamentale. Une année qui est fondamentale parce qu'elle est socle, parce qu'elle pose les fondamentaux méthodologiques, d'autonomie, apprendre à travailler, apprendre. Il va falloir la rendre beaucoup plus pluridisciplinaire, de façon aussi à permettre les réorientations, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'égarent la première année et qui doivent être réaccompagnés. Paul Thibault.
On parlait un instant du déséquilibre entre les ingénieurs et les docteurs en France, enfin, quant au statut social et quant au statut financier. C'est évident, mais est-ce que ça n'est pas lié justement au fait que les docteurs sont formés à l'université dans un cadre où il n'y a pas de sélection a priori, il n'y a de sélection qu'à l'usage, c'est-à-dire par l'échec. Alors là, est-ce que c'est pas vain de vouloir renforcer, si vous voulez, la qualité de la production des universités en ne changeant pas par des modes de sélection qui sont difficiles à trouver et surtout à faire admettre, c'est évident, mais enfin, qui je crois sont nécessaires, la production des docteurs dans les universités. Et c'est un problème autour duquel il me semble que vous avez tourné et devant lequel que vous n'avez pas voulu aborder véritablement de fond.
Ah non, alors là, vraiment, c'est pas que j'ai pas voulu l'aborder. C'est que nous l'avons abordé et nous avons refusé de mettre la sélection à l'entrée à l'université.
Et moi, c'est un choix. Je ne parle pas de l'entrée.
Ah, pardon. Vous parlez des doctorants.
Oui.
Pour tout vous dire, dans la loi autonomie, on n'a pas parlé de la scolarité. On n'a pas parlé de la scolarité parce que j'estimais que le sujet était un sujet trop crucial. C'était un socle et il fallait aborder la scolarité après avoir vraiment fait une concertation globale avec tous les acteurs et que cette loi autonomie avait échoué suffisamment de fois sur le seuil de l'Assemblée nationale pour qu'on la fasse passer une bonne fois pour toutes. C'est un mode de fonctionnement de l'université. Il fallait le faire passer vite et il fallait qu'ensuite, parce que ça met du temps ensuite après une loi comme ça pour se mettre en œuvre vraiment. Mais sur la question, les questions de la scolarité, il y a quand même une énorme sélection à l'université. Il y a une sélection en première année qui est de l'ordre de pratiquement 1 sur 2 qui redouble.
Oui,
donc
oui,
on y a une grosse sélection. Le master, le master est par l'échec parce qu'on n'a pas mis en place les mécanismes pour faire en sorte qu'on réussisse.
Est-ce que vous allez mettre une question est-ce que vous allez mettre une sélection? On entend bien le discours sur la première année, tout ça, bon. Mais à l'issue du cycle licence, hein, c'est une question qui est posée, ça. À l'issue du cycle licence, c'est-à-dire au bout des trois premières années, pour l'entrée en master, est-ce qu'il va y avoir une possibilité véritablement de sélection ou est-ce que le fait d'avoir la licence va automatiquement permettre d'entrer en cycle master?
Juste ajouter en passant que d'autres pays européens ont choisi ce chemin et de manière beaucoup plus radicale. Hein, mais je crois que vous dites que ce n'est pas notre culture forcément, cette question de la sélection.
Non, c'est pas ça, mais on a un baccalauréat. Alors moi je veux bien, ou alors il faut être cohérent et il faut faire ce que propose d'ailleurs Jacques Marseille. On supprime le baccalauréat puis on met une sélection à l'entrée à l'université. Mais je ne comprends pas. Regardez, vous savez combien coûte le baccalauréat chaque année? Je veux dire, si on fait passer le baccalauréat aux élèves, s'ils ont le baccalauréat, ça s'appelle le diplôme d'accès à l'université, ça s'appelle le baccalauréat. Alors après, on peut le repenser autrement, on peut le rendre plus difficile, on peut repenser les filières, on peut le rendre plus complet, on peut apprendre des choses différentes aux enfants, on peut se dire que le bachotage n'est pas la meilleure manière de former des hommes libres et des esprits sains dans des corps sains. Tout ça, c'est des vrais débats. Mais une fois que les élèves ont eu le baccalauréat, qui est l'examen d'entrée à l'université, si je les sélectionne à l'entrée...
Il ne faut pas leur refuser.
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, ces jeunes? Je veux dire, moi, j'ai une obligation morale de les prendre. Alors, pas de les prendre dans n'importe quelle filière et pas de les prendre dans n'importe quelle condition. Ça, c'est la question de l'orientation active. Et nous allons avoir, d'ici quelques semaines, beaucoup de choses à vous dire sur ces questions d'orientation active. Nous voulons accompagner les lycéens vers des filières de réussite. J'ai commencé à avoir un dialogue assez... comme dirait le président de la République, viril, même si je suis une femme, mais un dialogue assez constructif avec les IUT. Et je crois que d'ailleurs, ils ont tout à fait conscience qu'ils sont aujourd'hui devant une obligation aussi de d'étendre leur recrutement. Dans un IUT, dans un institut universitaire technologique, vous avez 66% des élèves qui viennent d'un bac général. Et vous avez 33% d'élèves qui viennent d'un IUT. Quand vous demandez aux élèves de bac technologique qui se retrouvent en filière générale à la faculté, à l'université, vous leur dites « Pourquoi est-ce que vous êtes là ?» Ils disent « Parce qu'on n'a pas été pris en IUT. On aurait préféré être ailleurs. » Et ils ont 56% de taux d'échec à la fin de la première année. Donc il y a un moment où moi, ministre de l'enseignement supérieur, il faut que je prenne les mesures qui font que ces jeunes de bac technologique ils soient mis sur une filière qui est une filière de réussite. Sachant en plus que l'IUT aujourd'hui a tellement bien conçu son enseignement professionnalisant qu'aujourd'hui 80% des élèves d'IUT poursuivent leurs études. Donc en réalité, c'est plus une filière courte qui bride l'horizon.
Sélective.
Oui, mais elle peut l'être, excusez-moi, elle pourrait l'être un peu moins et elle pourrait être un tout petit peu plus ouverte. Et en revanche, l'université, il faut absolument accompagner les élèves de façon à ce que la première année de l'université leur donne des fondamentaux, que la licence soit un diplôme qualifiant. Et quand on aura fait la licence un diplôme qualifiant, avec davantage de fondamentaux, avec davantage de professionnalisation, avec des stages, avec de la méthode, et bien à ce moment-là, il faudra, et ça j'en suis tout à fait d'accord, d'ailleurs je l'avais proposé dès la loi autonomie, mais... le moment n'était pas venu. Il ne fallait pas mélanger la scolarité avec le mode de fonctionnement. Il faudra faire du master un diplôme cohérent, un diplôme en 2 ans avec une sélection à l'entrée et pas au milieu. Parce que moi, tous ceux qui parlent de l'absence de sélection en master oublient de dire que la sélection, elle a lieu au bout d'un an et que donc vous avez des jeunes qui rentrent dans le master et qui sortent au bout d'un an sans diplôme.
Absolument. Là, c'est transformer l'étudiant en chercheur, hein, tout simplement, ou en faire un professionnel aussi. Ça, ça sera, fera partie des étapes suivantes.
C'est aller jusqu'au bout de la logique licence, master, doctorat, en faisant de la licence un diplôme cohérent, reconnu par le monde professionnel. Parce que là aussi, les entreprises continuent à rester dans le cursus maîtrise. Donc, ils continuent à demander 4 ans d'études. C'est pas possible.
Le risque, c'est qu'ils en demandent 5 maintenant.
Et le risque, c'est qu'ils en demandent 5.
Mais,
en même temps, on doit élever le niveau de qualification de nos enfants. On est dans un processus de Lisbonne où il faut que 50% des jeunes d'une classe d'âge arrivent au niveau de la licence.